Direction Dallas pour parler avec Danny Dubé qui est avec nous. Salut Danny.
Salut Jérémy.
Danny, comment faire pour être aussi compétitif qu'on l'a été face au Lightning de Tampa Bay ce soir face aux Stars de Dallas? C'était un bon match. Défensivement, par moments, c'était difficile face au Lightning. Mais là, ce soir, on doit absolument remporter ce duel face aux Stars de Dallas.
Ben écoute, l'ADN du Canadien, c'est la vitesse. Si tu veux faire peur à ton adversaire, tu dois utiliser cette vitesse à bon escient. Je pense qu'au dernier match, s'il y a quelque chose que le Canadien a réussi à faire, c'est ça. Et ce sera encore plus vrai contre une équipe comme Dallas, qui, honnêtement, ont pas mal les mêmes chiffres que le Canadien. Quand on y regarde de plus près, c'est deux équipes qui se ressemblent énormément au niveau des unités spéciales, au niveau de la production offensive en général. Le Canadien est supérieur à 5 contre 5. Donc, encore une fois, les choses vont jouer dans les détails. Et évidemment, que le travail dans le territoire du Canadien, c'est quelque chose qui devra être un petit peu peaufiné, puisqu'au dernier match, là, c'est deux buts directement reliés sur des erreurs défensives qui ont conduit à la défaite du Canadien.
Oui, il y a un but, entre autres, puis j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour parler de Victor Mété. Moi, j'apprécie beaucoup sa mobilité sur la patinoire, mais on voit que parfois, à un contre un, c'est difficile. Exemple, devant le filet, où Ernie prend possession de la rondelle, marque par la suite le but égalisateur. On a vu, Victor Mété semble avoir de la difficulté à contrôler justement ses bagarres un contre un.
Ouais, en fait, Mété, lorsque les jeux se transforment en bagarre territoriale, il doit vraiment tout faire pour gagner cette bagarre. C'est quoi gagner une bagarre territoriale? C'est de prendre avantage dans la position où on se retrouve dans un espace prédéterminé. Entre autres, devant le filet, il doit être en mesure de se placer toujours pour avoir un contact de bâton à bâton avec son adversaire. Pourquoi? Parce que Mété est passé fort physiquement pour marteler l'adversaire, pour le déplacer, le déstabiliser. Donc, dans de telles circonstances, lui, c'est vraiment une situation de bâton à bâton pour empêcher l'adversaire plus construit de récupérer les rondelles avec aisance. Et dans le cas du jeu avec Ernie a gagné la bagarre territoriale initialement. Donc, Victor Mété a eu l'air encore plus démuni physiquement, si je peux m'exprimer comme ça, en raison de la première étape qui n'avait pas été respectée. Puis pour lui, cette étape-là, elle est beaucoup plus importante que pour un Shea Weber ou un autre joueur parce que à cause de la longueur du bâton, de la portée et évidemment de la force physique qui peut compenser.
Dis-moi donc, Danny, Antti Niemi, c'est 11 buts dans ses deux derniers matchs. Non, enlevons l'avant-dernier, mais plutôt le match de 7-1 contre le Wild du Minnesota. Là, t'accordes 6 buts face au Lightning de Tampa Bay. On s'est parlé de la confiance la dernière fois qu'on a parlé ensemble. Qu'est-ce qu'on fait, là? Comment on arrive à rassembler tout ça pour faire en sorte qu'Antti Niemi soit en mesure de bien performer dans ce duel-là?
Ben écoute, c'est la question à un million, parce qu'on regarde la situation canadienne avait quand même marqué les deux premiers buts. C'était donné un coussin quand même confortable. Même si je te dirais que le Lightning de Tampa Bay, lorsqu'il tire de l'arrière par deux buts, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale. Il joue pour plus de 500. Avec quand l'adversaire marque le premier but, il joue plus.
Mais pour plus de 150. Ils ont tellement confiance en leurs moyens offensifs. Eux autres, ils se disent pas grave, on va revenir.
Hein? C'est ça. Mais là, écoute, moi, au dernier match, je t'ai parlé en avant-match de l'importance des déplacements latéraux aussi. C'est encore la même chose aujourd'hui. Donc moi, je pense que lui, pour donner un coup de main à ses coéquipiers, je vais peut-être jouer de façon un petit peu plus conservatrice. Ça veut dire peut-être un petit peu plus profondément dans son demi-cercle. Oui, il va concéder à l'adversaire. Dans la zone de tir, il va concéder peut-être un petit peu plus d'angle de tir, donc plus d'espace. Mais sur des jeux, que ce soit un jeu sur une passe transversale, que ce soit sur un retour de lancer où il doit se déplacer latéralement, il sera en mesure de réagir plus aisément parce que la distance à parcourir va être moins longue. Donc, il va être capable de réagir à des pointements. Lorsque ça n'arrive pas, on l'a vu l'autre soir, là, il est à plat ventre, il se retrouve à plat ventre. Ça veut dire que ses déplacements latéraux, la force de ses jambes, la vitesse avec laquelle il réagit, sa technique, évidemment, tout ça, c'est pas à niveau. Puis honnêtement, ça devient de plus en plus difficile pour une petite niveau dans la Ligue nationale. Mais je te dirais que quand tu commences à parler 35, 36, 37 ans, ceux qui jouent dans la Ligue nationale et qui jouent sur une base assez régulière ou qui ont des chiffres intéressants, c'est quand même des exceptionnels. Tu sais, je regarde Roberto Luongo l'autre soir contre le Canadien, ça a été difficile. Là. Même si c'est un grand gardien, là, les années commencent à rattraper Roberto parce que c'est le genre de but qu'il ne donnait pas auparavant. Ses déplacements sont beaucoup plus laborieux. Et on est dans une ligue où les déplacements latéraux des gardiens, c'est un peu comme les défenseurs de la mobilité. C'est super important, Jérémy. Tu peux pas être juste gros maintenant. Ils disent, ah, les gardiens sont gros. Oui, ils sont gros, mais ils sont aussi agiles. Et ceux qui sont gros et moins agiles ont plus de difficultés.
Danny, est-ce que c'est la cause première pourquoi il y a tellement de buts? Ça n'a pas de sens. Tout le monde marque des buts cette année. On voit que c'est tellement explosif, point de vue attaque, dans la Ligue nationale. Comment t'expliques cette situation?
Ben, le nombre de buts, moi, je pense que toutes les pénalités sur les séquences de bâton à bâton, là, tu sais, quand tu donnes des coups de bâton, ouais, sur le bâton de l'adversaire, tu as une pénalité. Bon, ça a donné un petit peu plus de temps au tireur. Ça a donné plus d'espace au tireur. Donc ça, je pense que ce sont des éléments qui militent en faveur des joueurs offensifs. Écoute, la qualité des bâtons, sans l'ombre d'un doute, qui est dans le coup. L'équipement des gardiens qui a été réduit aussi. Dans certains cas, les gardiens moins agiles sont désavantagés. L'équipement est plus petit, les jambières, les épaulières, etc. Et le jeu, les jeunes, il y a plus de jeunes dans la ligue, le jeu est plus rapide. Donc, ça c'est un autre facteur. Et le dernier, puis je pense que c'est un facteur extrêmement important aussi, c'est que lorsque les matchs sont hors de portée maintenant, les équipes abandonnent. C'est tellement difficile. Il y a tellement de matchs successifs. Là, la fatigue commence à se faire sentir. Donc, les équipes qui réussissent à aller chercher le coussin, le troisième but, là, ben là, on dirait que, oups, il y a comme une espèce de il y a une baisse de régime importante qui favorise l'équipe qui a l'avance, dans le fond. Ça fait que, hey, tu peux pas jouer défensif comme avant, te camper en défense puis attendre, parce que là, tu donnes de l'espace à l'adversaire, il va en profiter. Donc, tu continues d'attaquer, hein, tu continues d'amener la rondelle dans la zone adverse. Fait que tout ça, là, ça favorise l'équipe qui a l'avance, ce qui fait que lorsque plus de trois buts, mettons, de différence dans un match, entre deux formations, tu peux t'assurer que tu peux être convaincu que tu vas voir le pointage continuer d'augmenter.
Tu trouves pas qu'on bouscule un peu davantage les gardiens de but également? Il me semble qu'on ne gêne pas. Il me semble qu'on est capable de rentrer dans l'enclave, dans la zone réservée aux gardiens de but, puis on le brasse un peu plus.
Ouais. Ben, écoute, on l'a toujours fait. Est-ce qu'on le fait plus? Ce serait une statistique à prendre en compte, le nombre de fois où il y a de la circulation devant le gardien. Mais chose certaine, c'est que une fois que tu es campé devant le gardien, il y a beaucoup de circulation. Puis ça devient très difficile pour les équipes qui sont en train de défendre, de protéger le gardien. Il y a toujours les joueurs descendent très profondément, ça travaille très profondément dans la zone, ça force les ailiers à reculer. Donc là, les rondelles, il y a plus d'espace au point d'appui. Tu sais, c'est l'effet domino. Là, la rondelle monte aux défenseurs, puis là, ben, écoute, tout le monde est en bas de la zone. Ça fait que on se place devant le gardien, puis par conséquent, lorsqu'il y a un arrêt, puis il y a une rondelle libre parce qu'elle a été déviée, parce que le tir est voilé, ça se transforme en bataille. Et ces batailles-là, ben souvent, il va y avoir des contacts plus souvent qu'autrement accidentels, mais à l'occasion un petit peu prémédité avec les gardiens. Surtout quand le gardien connaît un bon match. Tu joues Vasilevski, là, moi, je m'en dis comme le gars, si je suis l'entraîneur du Canadien de Montréal, là, je suis le coach, linéaire, foncez au filet, suivez vos rondelles, assurez-vous de vous démarquer, vos bâtons vont être clean, placez-vous dans la ligne de tir. Ça, c'est des choses que les entraîneurs vont dire. Mais ces choses-là, ça a un effet directement sur le travail du gardien puis les nombreux contacts avec lesquels ils sont confrontés maintenant.
Donc, le Canadien affronte ce soir les Stars de Dallas, qui sont deuxième équipe repêchée présentement avec un total de 43 points, qui ont gagné leurs deux derniers matchs, dernière victoire 5-1 face aux Red Wings de Détroit. Et là, le président de l'équipe a varlopé un peu Jimmy Benn et Tyler Seguin. C'est une drôle de sortie quand même, une sortie publique pour des gars qui sont quoi, dans une trentaine de points à peu près, mais vraiment c'était très incisif envers les deux joueurs vedettes des Stars de Dallas.
Oui, mais ça, en même temps, ici on est à Dallas, là. La zone de confort est facile à trouver pour les joueurs. Souvent, ils n'entendent pas beaucoup parler de leur contre-performance. À Montréal, une victoire, une défaite consécutive, les choses se compliquent. Fait que, je pense que ce qui a été fait, ça a été fait. Moi, je pense que c'est un peu, scénarisé. Tu sais, je pense que ça venait du propriétaire pour des raisons évidentes, parce que le directeur général ne va pas se placer dans cette position-là face aux joueurs. C'est lui qui leur a donné les contrats, les sorties publiques. Tu te souviens l'année que Gretzky avait critiqué les arbitres aux Olympiques, comment ça avait servi de manœuvre de diversion, puis qu'ultimement, les joueurs s'étaient remis à fonctionner, puis l'équipe canadienne s'était remis en marche. C'est un peu ce qu'on a fait, là. Tu sais, les joueurs visés, là, juste que tu saches, là, depuis la sortie, il y a eu, les joueurs visés les deux joueurs ont un point. Ils n'ont pas marqué de but, il y a une passe à leurs deux. Donc, je pense pas que ça les a ébranlés beaucoup. Par contre, ça a fouetté l'équipe, ça a envoyé un message, ça a placé tout le monde devant une évidence. Ce n'est pas suffisant comme équipe. Les joueurs, tu sais, la vieille expression, puis l'adage qui dit, là, si c'est quelque chose à faire, de dire à ta personne la plus occupée, c'est sûr que ça va être fait.
Mm-hmm.
Ben, c'est la même affaire en coaching. Si tu veux que tes affaires marchent, quand c'est le temps de pousser, pousse sur tes meilleurs joueurs. Si tu pousses sur la quatrième ligne, tu vas avoir beaucoup d'énergie, pas beaucoup de résultats. C'est comme ça, c'est la nature de la chose. Si tu as une bonne équipe, avec de très, très bons joueurs, puis ces bons joueurs-là ne réussissent pas à faire la différence, mais tu pousses sur eux. Il y a différentes façons de le faire. Bon, c'est sûr qu'à Montréal, tu n'as pas besoin de faire de sortie publique contre tes joueurs. On s'occupe de ça.
Oui, définitivement.
Mais quand je dis « on », c'est le public en général.
Mm-hmm.
Nous, à Montréal, on a une relation amoureuse, mais il y a une présence. Hein? On est omniprésent à Montréal. Donc, les médias sociaux, tout ça, maintenant, la parole est au public, les gens ont leur opinion, les gens s'expriment à tort ou à raison, de bonnes ou moins bonnes analyses, ça existe. Ici, c'est pas mal plus tranquille. Donc, il faut que cette espèce de pression, cette urgence de gagner vienne de quelque part. Et probablement que après discussion, là, tu sais que de toute façon, là, on ne peut pas parler de l'entraîneur, c'est un nouvel entraîneur. Et on ne peut quand même pas lancer la pierre à l'entraîneur. Là. On peut quand même pas non plus regarder du côté du directeur général. Il a fait quelques transactions, il est allé chercher des gros contrats, il a consenti des gros contrats à des joueurs clés. Ils ont fait leur vie, là. Il leur reste quoi? Il leur reste une façon de relancer l'équipe, de donner un petit traitement à choc, que ce soit par la critique ou autre chose, mais finalement que ça serve d'élément de rassemblement. Et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. Moi, je pense que c'est un peu scénarisé, tout ça. Mais en bout de piste, le résultat est là. L'équipe a gagné deux fois. Quand je dis deux fois, c'est parce que je sais qu'à l'interne, il y avait eu une première sortie avant que ça sorte publiquement. Et ça n'avait pas semblé satisfaire les dirigeants. Ils en ont remis une couche.
Ils en ont remis une couche.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais que depuis... De toute façon, tu sais, les entraîneurs qui ont été congédiés là, jusqu'à maintenant, là, les remplaçants, c'est tout le monde joue sous la barre de 500 ou légèrement au-dessus de la barre de 500, puis personne n'a amélioré son sort au classement. Fait que, tu sais, tu changes de coach, tu règles pas les problèmes.
C'est pas tout le temps une solution magique. En terminant, Danny, je veux savoir, t'as suivi l'équipe, on termine ce voyage de 6 matchs sur la route. Évidemment, il y a eu la pause de Noël. Dis-moi, le niveau d'énergie ressemble à quoi? Les gars sont à terre, les gars ils ont encore d'énergie?
Très bon entraînement, très dynamique, beaucoup de rythme, la bonne humeur est au rendez-vous, l'enthousiasme. Écoute, c'est toujours difficile pour le Canadien ici. Fait que je m'attends à ce que ce soit encore une fois un match qui est difficile. Je pense que, tu sais, je voudrais pas être rabat-joie, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu dans les mains de Niemi. Le Canadien va jouer un bon match. Je pense que c'est un peu dans les mains du gardien d'être extraordinaire, d'être au rendez-vous, d'être là, de garder, donner une chance à son équipe de gagner. Tu sais, souvent, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'attaques maintenant qui viennent du bas de la zone, c'est très, très chargé. D'ailleurs, sur Play 360, vous allez voir, là, j'ai concocté quelques nouveaux exercices justement pour vos gardiens quand la rondelle sort du coin de la patinoire et ça attaque les filets. Donc, allez sur Play 360, vous avez ça sur le site de Cogeco. Mais je te le dis, c'est lui la clé. Il doit juste être correct. Je pense qu'il ne doit pas être excellent. C'est pas ce qu'on lui demande, mais il doit absolument jouer un bon match.
Je sois à la job, en quelque part.
Ouais, tu sais, le Canadien ne gagnera pas tous les soirs, ne comptera pas tous les soirs 5 buts pour gagner à l'étranger, là. Et je t'annonce que Bishop, ici, c'est quand même un gardien de but. Là, j'ai pas vérifié si c'est lui qui joue, je suis désolé, là, je dis ça sans avoir vérifié, je pense que c'est lui. Mais écoute, c'est un gardien de but qui a toujours eu, il a toujours eu énormément de succès en carrière contre le Canadien de Montréal. Donc, il avait gagné 4-1 cette dernière confrontation. Ouais. Je m'attends à le voir dans le
filet. Ben, Danny, on vous écoute à compter de 20h pour l'émission d'avant-match. Puis surtout, je te souhaite une bonne année 2019, Danny Dubé.
Merci beaucoup, puis on se souhaite beaucoup de bon hockey.
Merci, Danny. Au revoir, à la prochaine.